Franco Minge, l'émission de radio.
Lors de la précédente émission, j'ai évoqué les représentations humaines au paléolithique supérieur européen et les dernières recherches de Clément Biroust, qui interprète les figurations préhistoriques, et notamment, et plus particulièrement celles des Pyrénées, comme des témoins d'une cosmologie animiste. Pour rappel, l'animisme est une cosmologie très présente chez les peuples amérindiens. Les êtres vivants, animaux, plantes, humains, parfois même certains objets, ont une âme capable de discernement rationnel et de jugement moral. Le corps n'est donc qu'une enveloppe recouvrant des intériorités similaires. La plupart des existants sont réputés s'organiser selon des modalités analogues à celles des humains. Ils ont leur maison, leur chef, leur chaman, et la communication entre humains et non-humains est possible par le rêve. Cette cosmologie est en opposition avec la conception du vivant qui domine notre civilisation. Les Occidentaux sont les seuls à avoir théorisé une hiérarchisation des êtres humains, et souvent cette théorisation s'est construite à l'aide de la science. La science est le reflet de la société, et la préhistoire a parfois participé ou été utilisée pour alimenter des conceptions discriminantes et racistes. Donc vers 1860, l'Arte développe les premières classifications d'après les espèces mammifères qui se succèdent au sein des gisements. En 1869, c'est Mortillet qui divise la préhistoire en 14 époques successives. Les premières figurations féminines du Paléolithique sont découvertes à ce moment-là, à la même époque, et elles sont nommées immédiatement Vénus, en référence à Sarah Bartman, dite la Vénus hottentote. Ces statuettes sont investies d'une valeur mythique et originelle, et elles traduisent la vision linéaire de l'évolution qui dominait alors. C'est ainsi qu'Édouard Piette, en 1894, distingue deux races, les stéatopiges et les astéatogines, plus civilisées. Pour en revenir à Sarah Bartman, dite donc la Vénus hottentote, c'est en 1810 qu'elle est emmenée d'Afrique du Sud à Londres et exhibée dans toute l'Angleterre avant d'être exposée en 1814 à Paris. Elle est exposée nue pour 3 francs l'entrée par un montreur d'animaux, puis au jardin du roi devant un parterre de naturalistes. Morte à l'âge de 25 ans en 1815, son corps a été autopsié pour l'Académie royale de médecine. Son squelette et deux bocaux contenant son sexe et son cerveau seront exposés au musée de l'homme jusqu'en 1976. Ses restes seront restitués à l'Afrique du Sud en 2002. En 1889, le directeur du cabinet d'anthropologie, le docteur Letourneau, déclare « L'anthropologie anatomique nous apprend que les races nègres sont au bas de l'échelle et les races blanches au sommet. » C'est donc en usant d'images, de récits et d'émotions qu'une représentation inégale des races se construit. Un des moyens de construire cette supériorité est de mettre en scène les sauvages. Ainsi, lors de l'exposition universelle de 1889, la reconstitution, au pied de la tour Eiffel toute neuve, de villages africains dont les occupants sont à moitié nus, fonde, à cette époque de pudibonderie, la distinction entre blancs civilisés et sauvages de couleur. Depuis plus de 10 ans, au jardin zoologique d'acclimatation, des hommes d'Afrique, de Sibérie, des Andes, sont exhibés comme des animaux. Les exhibitions vont durer de 1877 à 1893 et ce sont plus de 30 millions de Français qui iront en famille observer les humains dans les eaux. À cette époque, la grande majorité des Occidentaux ont donc eu leur premier contact avec les populations indigènes à travers une grille, une barrière, un enclos. Le but était de placer les êtres humains exhibés au même niveau que les animaux. Si la construction d'une race supérieure est théorisée au XIXe siècle, le sentiment de supériorité de l'homme blanc existe depuis bien plus longtemps dans la pensée de nombreux Occidentaux. Ce n'est pas un hasard si c'est par le corps de la femme, les Vénus stéatopiges, que les races sont décrites. Nul n'ignore que la femme a longtemps été perçue comme une espèce différente de l'homme, espèce inférieure bien sûr, proche de l'animal et de l'immanence de la nature. Ainsi, l'image du sauvage, de la femme, de l'animal, de l'enfance de l'humanité sont-elles liées? Il est étonnant d'ailleurs de constater à quel point cette vision de la femme est présente chez les femmes elles-mêmes et jusque chez les théoriciennes du féminisme. En 1948, Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe. Elle décrit les hommes de la préhistoire, avant la sédentarisation et l'agriculture, comme des hordes primitives dans lesquelles les femmes étaient, pour des raisons pratiques, asservies à la reproduction. Si Beauvoir reconnaît à l'homme la capacité, je cite, de reprendre la nature à son compte et la modèle à la fois selon ses besoins et ses désirs, la femme, quant à elle, est soumise à sa condition biologique qui l'a mise dans la dépendance du mâle. La maternité, perçue comme handicap, nécessite la protection des guerriers. La femme de la préhistoire enchaînerait donc les grossesses. La fécondité absurde de la femme l'empêchait de participer activement à l'accroissement des ressources, tandis qu'elle créait indéfiniment de nouveaux besoins. Nécessaire à la perpétuation de l'espèce, elle la perpétuait avec trop d'abondance, et c'est l'homme qui assurait l'équilibre de la production et de la reproduction. Ainsi, pour Beauvoir, c'est la femme qui est l'unique responsable de la procréation. L'homme n'y participe pas, bien évidemment. Pourtant, et cela a été connu dès les années 50, ce sont chez les peuples de chasseurs-cueilleurs que les naissances sont le plus contrôlées, afin de maintenir des petites communautés mobiles en conformité avec les ressources de leur territoire. Pour Beauvoir, la femme subit passivement son destin biologique. Ainsi, elle l'aperçoit comme une victime, exactement la vision bourgeoise de son époque qu'elle décrit, et qui se répercute sur les études préhistoriques et ethnologiques. Ainsi, la femme, pendant très longtemps, a été l'invisible de l'ethnologie et de la préhistoire. Et elle a toujours été considérée incapable d'une quelconque innovation. C'est l'homme qui est l'unique acteur économique et social. D'ailleurs, Simone de Beauvoir, c'est assez clair dans Le Deuxième Sexe, considère, comme le mâle dominant de son époque, que lui seul invente, chasse, pêche, collecte, conquiert, modèle la face du monde. La femme est immanence, l'homme transcendance. Autre fantasme, nouvelle citation, ce n'est pas en donnant la vie, c'est en risquant sa vie que l'homme s'élève au-dessus de l'animal. C'est pourquoi dans l'humanité, la supériorité est accordée non au sexe qui engendre, mais à celui qui tue. C'est une conception très présente dans notre civilisation. Ces propos résonnent étrangement avec la conception qui domine encore notre civilisation quant au fantasme d'un progrès humaniste. L'homme blanc serait le seul à innover, à se confronter aux événements qui engendrent l'histoire. L'indigène, quant à lui, est un enfant qu'il faut prendre par la main pour le conduire jusqu'aux lumières de la connaissance rationnelle. Nouvelle citation, cette fois-ci d'un certain Sarko, en juillet 2007. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Comme l'indique Saïd Bouamama, qui est sociologue et spécialiste des colonisations, la colonisation des 19e et 20e siècles, l'industrialisation et le néocolonialisme actuel se situent dans le prolongement de l'expansion européenne des trois siècles précédents. On ne peut comprendre la situation actuelle et la construction de la supériorité du blanc sans tenir compte de cet événement majeur qu'a été la découverte du continent américain. La conquête des Amériques est marquée par la destruction presque totale des civilisations amérindiennes. Entre 1500 et 1650, la population des Amériques a chuté d'au moins 75%, victime du travail forcé, des massacres, des famines, des épidémies. Dès 1500, la France, avec le Portugal et l'Angleterre, a été la première bénéficiaire de la traite de l'esclavage des Africains. Au total, au moins 11 millions de personnes furent victimes de la traite européenne. Si l'esclavage existait en Afrique, c'est bel et bien l'Europe qui a créé et organisé la traite transatlantique et qui a étendu cette pratique barbare à des régions d'Afrique où elle était absente. L'esclavage est codifié sous le règne de Louis XIV en 1685 par le Code Noir, puis complété en 1724 sous le règne de Louis XV. Le Code Noir prévoit officiellement le fouet ou le marquage au fer, souvent sur le visage, pour des actes comme s'attrouper de jour comme de nuit et en cas de tentative de fuite, prescrit qu'on leur coupe les oreilles, puis qu'on leur coupe le jarret en cas de première récidive, et pour une seconde récidive qu'on les mette à mort. Bref, en 1765, Diderot écrit « Nous les avons réduits, je ne dis pas à la condition d'esclaves, mais à celle de bêtes de somme ». Lorsque l'esclavage, au fil des années, devient problématique, c'est une nouvelle forme de domination qui se met en place, la colonisation. Le but est toujours le même, exploiter le Sud au profit du Nord. Et pour cela, il faut exproprier des tribus de leurs terres, transformer ce qui était propriété collective en propriété individuelle. Avec les guerres des indépendances, il fallait repenser cette domination, et c'est ainsi que les élites occidentales ont mis en place le néocolonialisme, qui est une indépendance purement formelle, puisque l'économie, la défense et les affaires étrangères restent aux mains des pays du Nord. Pour donner un exemple, l'or du Mali est contrôlé par le Trésor français. Dans les années 90, la France décide de dévaluer le franc CFA, ce qui entraîne une diminution du pouvoir d'achat de 50%. Les gouvernements européens poussent les pays du Sud à faire des crédits. Puis, lorsque la dette est devenue irremboursable, ils proposent un plan d'ajustement structurel. Destruction du service public, libéralisation du commerce, pillage des pauvres. C'est un peu la Grèce.
Tiens donc.
C'est étrange. Le néocolonialisme existe bel et bien. Et refuser de parler de la colonisation et de l'esclavage, c'est tout simplement refuser de comprendre l'origine de la domination économique, politique et sociale que les pays riches exercent contre les pays du Sud. Pour conclure, les hordes primitives concernent tout ce qui a pu se passer avant la sédentarisation et l'agriculture. Ce qui veut dire que pendant près de 90 000 ans, les hommes ont été des chasseurs-cueilleurs. 900 siècles sur lesquels il nous est à l'heure actuelle impossible de dire que les hommes y pratiquaient la guerre, les hiérarchisations, les divisions sexuelles du travail ou une quelconque domination. Si l'idée du rôle civilisateur de la France n'a pas été seulement un argument de propagande destiné à couvrir des intérêts et des pratiques cyniques, s'il a aussi été un idéal pour des humanistes croyant sincèrement aux vertus du progrès, il est plus que temps de comprendre les liens qui unissent ces trois figures, l'animal, la femme, l'indigène. Pour certains archéologues, la femme serait même le premier animal domestiqué de l'homme. Une chose est certaine, le contrôle des corps et de la reproduction, ce qui est le propre de la domestication, sont encore une obsession d'une élite prête à tout pour réduire le monde en zoo et ses habitants en bêtes de somme. C'est terminé.
Benjamin avait un petit coup de gueule tout à l'heure.
Voilà un grand coup de gueule.
Bon, très bien, merci Anna. Merci pour tout ça.
Donc là, on peut voir quelques similitudes avec l'époque actuelle.
Ah, mais oui,
ça
surtout que là...
ne concerne plus les races, mais des niveaux sociaux.
Ça prend d'autres figures, voilà, d'ailleurs.
Ça prend d'autres formes.
L'exploitation des minéraux...
Pour Saïd Bouamama, maintenant, la nouvelle forme de colonisation, enfin de maintenir la domination, c'est les guerres. Les guerres en Syrie, les guerres en... C'est l'explosion des États, en fait. Et c'est comme ça que les pays riches pourront continuer à dépouiller...
Mais on n'est pas à l'abri non plus de la destruction du service public en France. Hein, on le voit avec les dernières infos en ce moment. Il n'y a pas de règle. Hein, L'Occident a eu son heure de gloire. Il va bien finir par exploser. Hein,
les amis, je crois qu'on
n'y va pas. Après, il y a une oligarchie.
Allez.